Bonjour tout le monde. C'est un grand privilège, un plaisir d'être ici parmi vous ce matin. Ma femme aussi, elle avait vraiment envie de votre groupe musicien. Elle dirige seule la musique à notre église. Donc, on va demander au moins un membre de descendre avec nous à Marseille pour s'installer. Elle a envie d'avoir au moins une autre musicienne avec elle pour jouer le dimanche matin. Elle joue une guitare électrique, jazz, et donc elle correspond bien, je crois, avec le saxophone. Elle m'a formellement interdit de vous informer qu'aujourd'hui est son anniversaire, donc je ne peux pas le faire. Vous êtes le bienvenu de le saluer après le culte, mais je ne peux pas vous dire que c'est son anniversaire. Je connais Jean Glass et Meg depuis 20 ans. Je vais enlever ses lunettes. J'ai cassé mes lunettes progressives. Je peux vous voir. Je connais Jean et Meg depuis 20 ans. Nous venons de la même église et nous sommes partis avec la même société missionnaire. Et je me souviens de leur départ pour la France il y a 20 ans. Nous étions destinés au Tchad. Et eux, à la France, à Paris. Et lorsque nous étions en train de faire la formation missionnaire, un jour j'ai sorti mon couteau suisse. Et Jean a commencé. Vous l'appelez Jean ou Jeanne? John? Et il a commencé à m'attaquiner. Il a dit, « Ah, mais vous êtes les vrais missionnaires. Vous partez pour l'Afrique. Vous avez même un couteau suisse. » Donc, le jour de leur départ, j'avais le plaisir d'avoir le dernier rire. J'ai présenté Jeanne avec son propre couteau suisse. Et je ne sais pas, peut-être ce couteau suisse était un souvenir pour garder l'idée, pour garder le Suisse toujours devant ses yeux. Jean et Meg, ils sont partis pour la France à Paris. Nous sommes partis pour le Tchad dans le désert. Mais aujourd'hui, avec vous, nous nous trouvons parmi vous à Genève. Je ne veux pas dire que nous habitons ici, comme vous avez entendu. Nous sommes à Marseille. Et nous travaillons avec France Mission. Je suis sous la team, sous France Mission. Et dans l'implantation d'une nouvelle église dans le quartier nord de Marseille. C'est un quartier plutôt immigré, pour la plupart musulmane. Et nous sommes là depuis presque 6 ans. C'est le quartier où vous allez bientôt entendre la plus grande mosquée de la France, même peut-être d'Europe, sera construite dans notre quartier, qui va accueillir plus de 5000 fidèles. Donc, nous vous demandons de prier pour notre église dans cette situation. Notre église, c'est une église nouvelle. Nous avons entre 20 et 30 assistants. Et donc, notre salle est presque la même grandeur que ce parti. Je doute qu'ici en France, je n'ai jamais prêché devant une église aussi grande. À Marseille, je ne connais pas d'église qui a plus de 100 membres. Et donc, vous êtes vraiment une méga église. Je connais bien l'histoire de cette église. Je connais bien Jean et on a beaucoup parlé. Et chaque fois, quand je parle avec lui, et vous savez, Jean, il est comme ça. Mais il est toujours encouragé avec le progrès de cette église. Et c'est très encourageant à voir comment la main de Dieu est sur cette assemblée et tout ce qu'il fait pour vous. Et alors, quel message est-ce que je peux donner à une nouvelle église en bonne voie pour Jésus-Christ? Si on étudie bien les lettres de Paul, elles sont pour la plupart écrites pour corriger des erreurs, pour corriger des églises qui avaient tombé dans l'erreur. Souvent parmi les chrétiens, on entend le cri de « retourner au christianisme du premier siècle ». Un christianisme pur, sans matérialisme, sans égo, sans pas égoïste, comme aujourd'hui. Mais si on regarde bien les lettres de Paul, on constate que la première église était trop souvent impure, corrompue. C'est pour cela que Paul a dû écrire les lettres. L'église de Galates, ils avaient abandonné la vraie foi, et Paul écrit une lettre sévère pour les corriger. L'église à Corinthe, ah oui, ça, c'est une église exemplaire. Des miracles, des guérisons, de parler en langue, des choses miraculeuses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voudraient ressembler à cette église, n'est-ce pas? Paul n'était pas tellement impressionné. Oui, des miracles. Oui, la guérison. Mais car cette église avait tellement détérioré qu'elle accepte qu'un membre habite avec sa belle-mère. Il y avait tellement de divisions dans cette église que les membres riches ont mangé leur agape à côté des membres pauvres qui meurent de faim sans partager. Une église en tellement de désordre que l'apôtre a dû écrire deux lettres. Il a essayé deux fois de les ramener à Christ, et même il semble que ses efforts étaient futiles. Je viens de lire les deux derniers chapitres de Corinthiens, et Paul était désespéré. Il semble que tout ce qu'il a fait était futile. Ah! Mais une de ces lettres était écrite à une église exemplaire. Aujourd'hui, je voudrais que nous regardions une autre église qui probablement était la meilleure église de son époque. Et je parle de l'église à Philippe. Quelle belle église! Je ne parle pas d'un bâtiment ni le décor, mais des gens. L'église, c'est ces gens, des membres de l'église. Ça, c'est l'église. Le corps de Christ. Et ses membres, ils étaient tellement beaux. Nous n'avons pas assez de temps pour regarder toute cette lettre, mais un bref survol nous révèle que Paul aimait ces gens. Nous trouvons en chapitre 1 qu'il a remercié Dieu pour cette église. Paul a tant lutté avec les autres églises que lorsqu'il pense aux fidèles de Philippe, il semble qu'il soupire avec joie. Ah, l'église de Philippe, je remercie Dieu pour vous. Ah, oui, les Galates, les Corinthiens. Ah, mais Philippe, ça marche. Ils avaient participé dans l'évangélisation. Paul a pu partager ses pensées les plus personnelles, les plus intimes. Il partage son cœur avec eux, comme un vrai ami. Cette église a soutenu Paul financièrement et avait envoyé Épaphrodite pour lui donner une offrande. Nous trouvons en chapitre 4 que certains membres ont combattu pour la foi à côté de Paul. Ils avaient donné les dons de l'argent plusieurs fois. Ils étaient la seule église à le faire. Et je crois qu'on puisse dire que l'église à Philippe était l'église modèle de Paul. Il dit que cette église était sa joie, sa couronne. Mais même une église idéale peut avoir des problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et à l'église à Philippe, il y avait un petit problème. un petit désaccord. Ce n'était rien de grave, rien pour les disqualifier, surtout rien en comparaison avec les autres églises mentionnées. Mais juste, Paul a vu une petite graine de désaccord qui va, s'il pousse ses racines, il peut fendre cette église. Il peut fendre comme un petit grain peut fendre un rocher. Paul a vu une petite faute d'harmonie, comme un chef d'orchestre qui, devant ses musiciens, il entend un petit désaccord et il cherche le corriger. En chapitre 2, Paul le mentionne, et puis en chapitre 4, il le clarifie. Au moins deux membres, des vrais guerriers spirituels. Ils avaient un petit désaccord entre eux, et Paul cherche à le corriger. Souvent, les commentateurs, les théologiens donnent le thème de ce livre, la joie. Oui, c'est une bonne, parce que le livre, Paul a un esprit de joie, parce qu'il aimait ces gens. Mais je crois un meilleur thème, c'est l'unité. En chapitre 1, versets 1 à 11, Paul dit qu'ils étaient unis avec lui dans l'évangélisation. En chapitre 1, versets 12 à 18, il parle des gens qui étaient dans l'évangélisation d'un sens, mais pas unis avec Paul, pas avec les vrais apôtres. Et versets 19 à 30, Paul donne la cause, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Il exhorte les fidèles à Philippe à demeurer ferme dans un esprit, dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Il les appelle à l'unité dans le combat. Et alors nous arrivons en chapitre 2, au message d'aujourd'hui, où Paul donne cet enseignement. Et je voudrais inviter Ruben de lire Philippiens chapitre 2, versets 2 à 8.
Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Merci beaucoup. Je crois que le thème de cette lettre est l'unité, parce que nous voyons en chapitre 2, Paul dit un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Une. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité? C'est une vraie question, j'attends une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité? C'est la première deux lettres de ce mot, c'est un. Un. D'être un. Oui, d'être uni, on dit oui, mais ce n'est pas d'être uni, c'est d'être un. Un dans l'esprit, un dans l'amour. En verset 3, il les appelle à l'humilité. En verset 4, il les appelle à considérer les autres. Et en verset 5, il nous donne l'exemple de Christ. D'être un, c'est d'avoir une même direction. Souvent, nous avons les jeunes à Marseille qui vont se marier. Et les deux viennent, le garçon et la fille, ils viennent. Et souvent, ils ont des directions de vie différentes. L'un voudrait habiter à Lille, dans le nord, ou Genève. L'autre voudrait habiter dans le sud, à Marseille, dans le soleil. Moi, mon rêve d'être, c'est de vivre à Genève, au bord des lacs, dans les montagnes. Non, Marseille, au bord de la Méditerranée, dans le soleil. Deux directions différentes. Et chacun, il doit se dépouiller de ses rêves, sa direction, pour avoir une seule direction. C'est difficile de vivre en couple séparé par 5 heures de TGV, n'est-ce pas? Ça arrive de temps en temps dans les cas d'urgence, mais... Donc, être unis, c'est d'avoir une même direction, un même rêve. Et Paul les appelle, cette église, à être unis. En verset 5, il donne l'exemple de Jésus-Christ. Et nous devons avoir les mêmes sentiments de Christ. Et le mot sentiment parle d'une mentalité, une direction de vie. Et c'est intéressant ici, nous voyons, Jésus n'a pas regardé ses doigts comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé ses doigts comme des choses précieuses. Pas quelque chose de première importance. Mais il les a laissés à côté pour accomplir la tâche donnée par Dieu. La rédemption des âmes, des hommes, il les a laissés à côté jusqu'à la mort, même une mort dégradante. Jésus a préféré de ne pas mourir sur la croix. Nous voyons dans sa prière dans le jardin, il a dit, « Seigneur, Père, je ne veux pas mourir, mais pas ma volonté, la tienne. » Lorsque les soldats sont venus pour l'arracher, Pierre sort son couteau, et Jésus a dit, « Pierre, j'ai droit à 10 000 anges de venir maintenant. » J'ai mis à côté les droits pour mourir. Il a mis à côté ses préférences et ses droits. Donc Paul, il voit ce petit désaccord dans cette église, une église exemplaire autrement, et il les rappelle au vrai évangile. Un vrai croyant est quelqu'un qui suit Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça un disciple, quelqu'un qui suit Jésus. Et voici le chemin de Christ, l'humilité, le service, s'unir au plan de Dieu. Et je crois qu'on trouve un principe ici qui est tellement vaste. Le plan de Dieu était plus important, plus grand que les droits de Dieu. Le plan de Dieu était plus important, plus grand que les droits de Dieu. Jésus était Dieu, il avait ses droits, il avait ses préférences, mais le plan du Père, le plan de Dieu, planifié par le Père, accompli par Jésus, par le Fils, et mis en route par le Saint-Esprit, ce plan était plus important que les droits de Dieu. Et combien de plus que nos petites préférences, nos petits droits. Jésus-Christ a mis à côté ses droits parce qu'il avait quelque chose de beaucoup plus important. La réconciliation des hommes à leur Dieu, la rédemption et l'établissement de son Église, notre salut, vous et moi, cette Église, mon Église à Marseille, ils étaient tous plus importants que les droits de Jésus. Il les a mis à côté pour accomplir quelque chose de plus grand. Et nous aussi, nous devons mettre à côté nos droits parce que nous sommes appelés à participer à quelque chose beaucoup plus grande. L'Église de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu sur cette terre. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul a dit que même nous sommes invités à être collaborateurs avec Dieu. Il a dit, Dieu nous a sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a planifiées. Collaborer avec Dieu. Ça, c'est beaucoup plus important que mes petites préférences, que mes petits droits, n'est-ce pas? Nous trouvons cette attitude exemplifiée dans la vie de Jean-Baptiste. Et est-ce qu'on peut lire Jean, chapitre 3, versets 22 à 31?
Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et qu'on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant à la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous.
Encore merci. C'est intéressant, nous voyons un grand évangéliste qui a prêché pendant des années. Tout le monde vient auprès de lui pour entendre son message, et beaucoup de monde était baptisé. Il était la voix de Dieu à cette époque. Un jour, il a baptisé un autre homme. Et maintenant, cet autre homme, il commence à établir son ministère jusqu'à côté, quelques kilomètres. Mais l'évangéliste, il continue à prêcher. Et les gens viennent, mais pas aussi nombreux qu'avant. Et quelques-uns de ses stagiaires, ils viennent et ils disent, « Pasteur, il y a quelqu'un, tu l'as baptisé il y a quelques semaines et maintenant... » Il a établi son ministère jusqu'à côté. Même quelques autres de nos membres, ils commencent à assister à son assemblée. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas arracher les brebis. On ne peut pas voler des brebis de nous. Ça, c'est notre travail. C'était ça l'idée des disciples de Jean. Malgré le fait que Jean a annoncé, voici l'agneau de Dieu. Ils ont vu avec leurs propres yeux, non, quelqu'un est en train de détruire le ministère de Jean. Jean était le meilleur homme qui a jamais vécu. Il n'y avait pas d'homme plus grand que Jean-Baptiste, selon Jésus. Maintenant, les gens commencent à partir vers Jésus. Et nous voyons que Jean-Baptiste, il a dit, il faut qu'il croise et que je diminue. Jean avait déjà perdu deux de ses disciples à Jésus. Mais comme Jean a dit, je ne suis pas le Christ. Je vous avais averti, je ne suis pas le Christ. Ce n'est pas moi l'important. C'est le Christ qui est l'important. Souvenons-nous aussi, nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas Dieu. Souvent, on a l'idée, mon opinion, mes préférences sont importantes. Oui, Dieu, tu es là, mais reste là. J'ai mes opinions ici. Et Jean-Baptiste, il donne l'image de l'illustration d'un mariage. Au mariage, qui est le plus beau? Qui est la plus belle? le marié et la mariée, n'est-ce pas? Si l'ami du mari ou la demoiselle d'honneur, s'il cherche à être plus belle ou prendre la place de l'honneur, non, ils sont hors de place. C'est pas leur fête. C'est la fête des mariés. Et Jean disait à ses disciples, il ne s'agit pas de moi. Le monde ne tourne pas autour de moi. Mes droits, mes privilèges, ma position, même le ministère que Dieu m'a confié, ne sont pas les choses les plus importantes. Jean savait qu'il était participant dans un plan beaucoup plus grand que de baptiser des gens dans le fleuve Jourdain. Jean avait une partie de ce plan, mais le plan était beaucoup plus vaste que son ministère, que ses petits doigts. Il était participant à quelque chose de beaucoup plus grand, le ministère de Jésus-Christ et son Église, parce que tout revient à Jésus, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, Jean-Baptiste et Jésus, ils avaient tous mis leurs droits, leur position, leurs privilèges à côté pour les autres, pour une cause plus grande. Le but de cette Église ne sera pas achevé. Cette Église ici, l'Église internationale évangélique de Genève, c'est ça le titre entier. Le but de cette Église ne sera pas achevé que si vous vous souvenez de la première chose. Il ne s'agit pas de vous. La chose la plus importante n'est pas vos droits, vos privilèges, votre position. Chacun de nous devrait savoir que nous sommes participants dans quelque chose de plus grand. Nous sommes participants dans le plan de Dieu. Et tout revient à la cause de Christ et de son Église. Donc nous devons soumettre nos préférences, nos droits, nos privilèges à Dieu. Ils sont tous secondaires au plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On a parlé hier soir avec Kimberly. Si je dis, il ne s'agit pas de moi, est-ce que c'est compréhensible? Et donc on a dit, comment phraser, le monde ne tourne pas autour de moi? On a cette idée. Cette Église a bien commencé ici. Mais si vous ne restez pas unis dans l'humilité, dans le service aux autres, le futur sera difficile. Il y a tant de barrières, tant d'ennemis à l'extérieur, tant de combats provoqués par l'ennemi extérieur. Il faut que vous soyez unis et que vous restez unis. Il faut que vous restez un, la même direction, le même amour pour Jésus-Christ. Notre seul sentiment, notre seul amour, notre seule âme, notre seule pensée devrait être la cause de Christ. En chapitre 2, Paul a lancé un appel à l'Église entière. Et ça devrait être l'esprit général de l'Église. Mais en chapitre 4, il commence à adresser les individus. Il donne ses dernières salutations et en verset 2, il lance un appel spécifique aux particuliers. Il dit à Evodie et à Saint-Tiche de vivre en harmonie. Les noms en grec sont féminins. Donc on pense que c'était deux femmes dans l'Église, mais si c'était des femmes, ce n'est pas sûr, parce que même il y a, c'est comme en français, on a les mots qui sont la parole, en Jean chapitre 1. La parole était faite chair et elle était Dieu. Elle, mais Jésus était en lui. Mais on ne peut pas dire il était Dieu parce qu'il ne correspond pas avec la parole. Donc, on ne sait pas si c'était deux femmes. Mais si c'était deux femmes, ils étaient formidables. Parce que Paul a dit, ils avaient combattu à côté de moi une petite note à côté. Ma femme, elle a travaillé dans une petite entreprise lorsque nous étions aux États-Unis. Et il avait un commerçant qui a vendu le bureau quelque chose, un photocopieur qui n'a pas marché. Et donc, elle a téléphoné. Elle était assez dure avec lui. Et tout le monde a dit, ah, elle est le guerrier de téléphone. Et je crois que chacun de vous, peut-être votre maman ou quelqu'un, vous connaissez les femmes formidables qui sont prêtes à combattre. On dit, est-ce qu'il y a un nom pour un ours féminin? Les ours déprimés de ces petites, il n'y a rien de plus dangereux. Et donc, il y avait ces deux femmes guerrières spirituelles dans cette église. C'est difficile pour les guerriers de vivre ensemble, n'est-ce pas? Les épées commencent à blesser l'autre. Donc, on ne sait pas le problème. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais quand même, ils avaient un désaccord. Il n'y avait pas une harmonie entre les deux. Et donc, Paul leur a demandé de vivre en harmonie. Paul lance un appel à l'Église en général et puis aux particuliers. Et moi aussi, je voudrais vous lancer un appel. L'attitude d'unité concerne l'Église entière, mais ça commence avec les individus. Dans nos maisons, dans nos foyers, on doit avoir un esprit d'harmonie, d'unité avec votre femme, avec votre mari, avec vos parents. Les petits sont tous partis. Avec vos parents, avec votre soeur, votre frère. L'unité commence à la maison. On ne sait pas encore si Evody et Saint-Tiche, ils avaient habité ensemble. Mais l'unité commence à la maison, dans la famille. Donc, on doit avoir les familles unies avant d'avoir une église unie. Donc, Paul lance l'appel à l'église, mais enfin, il le lance aux individus. Souvent, on entend dans l'église, « Mais ma voix devrait être écoutée. Mon opinion a autant de valeur que les autres. Moi, j'ai des droits aussi. » C'est vrai. Dans une église, nous sommes tous égaux, mais notre seul sentiment, notre seul amour, notre seule âme devrait être la cause de Christ. Ça, c'est la chose la plus importante. Nous sommes engagés dans quelque chose beaucoup plus vaste que nous. Comme l'apôtre, comme Jean-Baptiste, un prophète, pas un apôtre. Et permettez-moi aussi d'être personnel. Nous qui sommes mariés, il semble qu'il y ait beaucoup de vous qui sont mariés. Nous savons que souvent les grands arguments, ils commencent avec les choses minuscules, n'est-ce pas? Je vois quelques femmes qui commencent à sourire et ils font cela à leur mari. Comment décorer la chambre? Quelle couleur de peinture? Qui n'a pas arrangé la chambre? Qui a laissé ses vêtements sur au sol dans la salle de bain? Dans la psychologie, on dit on rigole lorsqu'on est un peu nerveuse. N'est-ce pas? Parce qu'on sait que c'est vrai. Je sais avec ma femme, les grands arguments, ils commencent avec quelque chose de minuscule qui n'est pas important. Cela tourne autour des préférences, des droits, mes préférences et mes droits, n'est-ce pas? Je préfère le bleu. Elle aime le violet. Je n'aime pas le violet, c'est bleu. On va faire le... Non, c'est moi qui fais ce parti. Tu peux faire le jardin, mais à l'intérieur de la maison, c'est moi. Mais j'habite ici aussi. J'ai des droits dans l'intérieur. J'ai des droits. C'est souvent le cas dans les églises. Tout tourne autour de mes droits, mes préférences. Mais Paul, en Philippiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il a dit? Avoir le même sentiment que Jésus. Même Jésus-Christ a mis à côté ses droits, ses préférences pour accomplir une cause plus grande. Et pourquoi Paul a-t-il inséré ce passage dans une lettre de félicitations? C'était une église formidable. L'église à Philippe était un joyau, un bijou, la couronne des églises que Paul avait commencée. Il a écrit cette merveilleuse lettre pour les féliciter, pour les encourager. Mais il a vu une petite graine de désaccord, un petit grain d'orgueil. Il savait que si ce grain germine, s'il envoie ses racines, ce petit désaccord peut fondre pour fondre l'Église, pour avoir des conséquences graves. Paul avait déjà vu dans les autres églises. À Corinthe, ils avaient tellement de divisions. Je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Jésus. Moi, je suis riche. Je ne veux avoir rien à faire avec les pauvres. Ils sont. Moi, je suis riche. Je mets le Calvin Klein, le parfum qui coûte 50 euros pour un petit flacon. Et moi, j'ai amené un poulet rôti avec les pommes de terre. Meg nous a fait un poulet rôti. Je vais le mettre ici parce que les pauvres, ils ne mangent qu'une baguette, une demi-baguette de hier. C'était ça l'église à Corinthe, des divisions. Et Paul a vu cette église à Philippe, ils ont dit, c'est un bijou. Et je ne veux pas qu'il devienne comme l'église à Corinthe. Donc il a cherché à déraciner ce désaccord avant qu'ils grandissent. Alors, pour leur futur bien, il les a exhortés à l'unité, il les a rappelés qu'ils sont des participants à quelque chose beaucoup plus grand. Et vous, l'Église internationale évangélique de Genève, vous avez bien commencé. J'en ai pas ici, je ne sais pas s'il va entendre cela. Mais chaque fois, il est tellement heureux, il dit, mais les choses, ils avancent bien. On voit la main de Dieu, les gens viennent. On a trouvé un hôtel et qui nous accueille. Il y a tant de choses qui arrivent. Et c'est vrai. Vous avez bien commencé, la main de Dieu est sur vous. Et je vous exhorte, gardez l'unité dans le plan de Dieu. Vous participez à quelque chose beaucoup plus grand que vous, comme individuel. Vous avancez dans la foi et félicitations. Gardez cette unité. Et souvenez-vous que vous êtes appelés à l'unité. Vous êtes appelés à renoncer vos droits personnels, vos préférences personnelles, pour se rejoindre à quelque chose beaucoup plus grand, la cause de Christ, dans cette église et dans la ville de Genève. C'est par cela que cette église peut avoir un vrai impact dans cette ville. En France, on dit, ah, mais les Suisses, c'est un pays évangélique. Surtout par rapport à Marseille, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour, il a dit, ah, mais vous savez, à Marseille, il m'a demandé, vous êtes quoi? J'ai dit, je suis pasteur protestant. Et il a dit, mais Marseille, c'est plutôt une ville catholique. J'ai dit, Marseille est plutôt une ville musulmane. Je connais les églises catholiques et Oui, le bâtiment est grand, mais peut-être il y a 10. Il y a quelqu'un dans l'Église catholique qui a moins de 70 ans. À Marseille, l'Église catholique, les églises, les bâtiments sont jolis. Il y a un abbé à Saint-Victor qui était commencé dans l'année 200. J'aime cet endroit parce que dans les cryptes, on voit les tombeaux des chrétiens martyrisés pour leur foi dans l'année 200, 300. C'était une des vraies chrétiennes. Maintenant, la mosquée de Marseille aura 10 fois plus de fidèles à l'intérieur chaque vendredi que toutes les églises catholiques pendant toute la semaine à Marseille. Nous voyons la Suisse, on a beaucoup de missionnaires, surtout en France Mission, nous avons beaucoup de missionnaires qui viennent de la Suisse. Et nous vous remercions beaucoup pour votre contribution en Suisse. Il y a peut-être aussi des Français ici. Mais je sais que la Suisse aussi n'est pas un pays évangélique, n'est-ce pas? Malgré l'histoire. Et je crois que Genève a besoin d'une église unie à la cause de Christ, qui prêche fidèlement sa parole, pas les opinions, pas la psychologie d'aujourd'hui. La parole de Dieu n'a pas changé, c'était écrit pour être fidèle à l'original. Et je félicite Jean pour sa fidélité à la parole de Dieu. Et je prie que vous restez unis afin que cette église puisse avoir un vrai impact dans cette ville. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.